Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Eh bien, je vais vous parler de Jean-Marc Civelle. Jean-Marc Civelle, nous nous sommes rencontrés il y a bien des années dans ma bonne ville natale de Saint-Dié des Vosges. Ah, il faisait partie à cette époque du premier groupe de musique qui m'accompagnait. Nos chemins se sont séparés lorsque je suis parti m'installer à Paris, mais depuis quelques années, je l'ai retrouvé dans le joli village de Xaronval, que nous animons, moi, avec mon accordéon et mon ami violoniste, et lui avec son groupe de musique au coin de la rue. Alors, dans le groupe de Jean-Marc, ce dernier est composé d'une chanteuse, trois musiciens multi-instrumentistes. Alors attention, il y a guitare, ukulélé, saxophone, flûte, percussion, harmonica, accordéon et scie musicale, c'est sa spécialité. Ils interprètent un vaste répertoire des chansons françaises de 1900 à nos jours. Et si vous voulez les écouter, vous les retrouverez le 12 avril à Vézelise, au Grenier des Halles. Mais aussi le 2 août à Oudelmont pendant l'été et au village 1900 de Xaronval. Alors Jean-Marc Civelle, en dehors de son côté musical sympathique, a beaucoup de talent puisqu'il est aussi écrivain à ses heures. Il nous propose donc ce texte amusant et poétique qu'on va vous lire, La fin des haricots.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
C'était avec ses doigts que Gilbert avait fini d'extraire la boîte hors de terre. Alors qu'il creusait un trou pour y installer des boutures d'hortensia, le fer de sa bêche avait heurté un objet dont le bruit creux indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un caillou.
Agenouillé devant sa découverte, Gilbert avait tout de suite identifié la boîte. Couleur jaune, motif en forme de banane, tête de noir hilar propre à l'époque des colonies, c'était bien sûr une ancienne boîte de banania qui avait accompagné tous les petits déjeuners des enfants français dans les années 60. Le couvercle, soudé par une fine ligne de rouille, assurait l'étanchéité de l'ensemble et Gilbert dut sortir son laguiole pour le faire sauter. L'intérieur contenait une seconde boîte qui fit monter en lui une intense bouffée d'émotion.
Oh bon sang, c'est la boîte à messages de Gérard, mon pote Gérard.
Alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années, Gilbert n'avait qu'un seul ami avec lequel il échangeait des messages secrets. C'était Gérard qui avait dérobé l'objet dans le buffet de sa mère. Une boîte de bergamote de Nancy, encore garnie de quelques bonbons au goût si particulier. Et petit à petit, la boîte était devenue un moyen d'échange et de correspondance entre les deux garçons. D'innombrables secrets de pacotille, messages codés et autres missives enfantines avaient transité dans cet étui métallique orné de la fameuse place Stanislas.
Le souvenir de Gérard remonta brusquement dans le cœur de Gilbert. Leur indestructible amitié avait pris naissance le jour où il avait sauvé son compagnon d'une mort certaine. Alors qu'il jouait sur le dangereux pont de la Vanne de Pierre, le pied de Gérard avait soudain glissé, le précipitant dans le courant tourbillonnant en aval du barrage. Le jeune garçon commençait à disparaître dans les eaux brunâtres situées en contrebas quand Gilbert avait trouvé une grosse branche qu'il avait tendue à son ami, lui permettant non sans peine de regagner la rive.
Depuis ce jour où il avait vu la mort de près, la reconnaissance de Gérard se matérialisait par la présence régulière dans la boîte à messages d'une phrase immuable, toujours écrite d'une main peu experte en orthographe.
« Merci mon petit pote, je te revaudrai ça un jour. Signé G. »
Se ressaisissant, Gilbert ouvrit la boîte de bergamote et en sortit un rouleau de papier constitué d'une demi-page de cahier d'écolier. Il fit coulisser le lien de raffia qui le maintenait et déroula la feuille, sur laquelle étaient inscrits ces mots, à l'encre délavée par les années.
« Rendez-vous à 14h à la cabane. » Bon, chiche. Tant pis pour ma sieste dans le jardin, et puis ce sera l'occasion de voir si notre cabane secrète tient encore debout. Alors, il ramassa sa casquette, mit les boîtes dans sa besace et commença à gravir la côte menant au bois des ronces. Tout en marchant, il songeait à son meilleur ami qui avait eu la très mauvaise idée de mourir d'un accident de vélo 2 ans auparavant.
Gilbert était allongé à même le sol, au centre de cette vieille masure, faite de planches vermoulues. La brèche dans le toit laissait entrevoir quelques cumulus qui venaient égayer le bleu intense du ciel d'été. Après avoir longuement cherché, il avait fini par la dénicher, entièrement recouverte par un buisson géant de ronces aux tentacules couvertes de murs. À l'aide d'un long bâton, il s'était frayé un chemin tout en ponctuant ses efforts par la dégustation des baies juteuses et sucrées à souhait. La porte avait cédé facilement. Et en entrant, Gilbert avait été submergé par une vague de souvenirs d'enfance en compagnie de son pote de toujours. À présent, un léger sourire se dessinait sur ses lèvres noircies par les fruits. Il prenait plaisir à se remémorer les 400 coups qu'ils avaient faits, voyant défiler mentalement le film des extraordinaires aventures qu'il avait partagées avec lui. Il revoyait la vieille souche qui leur servait de table, où ils étalaient leurs trésors, établissaient des plans, rédigeaient des messages secrets qu'il glissait ensuite dans la fameuse boîte de bergamote. Jamais Gilbert n'avait retrouvé une telle complicité avec un être humain. La chaleur de l'après-midi finit par le plonger dans un profond sommeil, rempli de souvenirs heureux.
Le gros routier transpire. Ah, de nombreuses gouttes perlent à son front plissé. La plupart dégoulinent jusqu'en bas de ses joues cramoisies. Et quelques-unes finissent même leur course tout au bout du nez couperosé et vont s'écraser sur l'énorme volant, déjà rendu glissant par la sueur de ses mains crispées. Ah, il lui faut réfléchir rapidement. La vitesse est déjà trop élevée pour sauter par la portière et abandonner le semi-remorque à un choc terrible contre une des maisons du village, située juste en bas de cette descente vertigineuse. On l'avait pourtant prévenu, hein. La côte du bois des ronces pouvait s'avérer très dangereuse si on l'abordait à vitesse excessive. Après avoir martelé une dernière fois de son pied la pédale de frein devenue inutile, le gros homme décida au dernier moment de diriger son camion devenu fou juste là, vers le petit jardin, situé entre les deux premières maisons du village. Juste avant de fermer les yeux, il eut le temps d'arracher la médaille de Saint-Christophe qui gigotait au plafond de la cabine et d'y plaquer ses grosses lèvres tremblantes.
Ce fut le hurlement lointain de la sirène des gendarmes qui tira brusquement Gilbert de ses rêveries. Il se leva d'un bond, sortit de la cabane, sans même prendre garde aux nombreuses griffures dues aux épines des ronces, et se dirigea rapidement vers le promontoire tout proche qui dominait la vallée. Apercevant la scène de désolation juste à côté de sa maison, Gilbert décida de passer d'abord au cimetière, avant d'aller estimer les dégâts que la catastrophe avait infligés à son jardin.
Et non, Steph, je vous assure, il n'y a personne sous le camion. Ah bon? Et vous êtes sûr, brigadier?
Ah, certain. Il n'y a que les restes d'un vieux banc tout écrabouillé.
L'officier de gendarmerie se dirige vers le garde-champêtre qui leur a téléphoné un quart d'heure auparavant.
Et vous voyez bien, monsieur, heureusement, cet accident n'a fait aucune victime. Mon collègue vient de le vérifier.
Mais enfin, c'est pas possible. Je vous assure qu'il n'y a pas un seul après-midi en été où le Gilbert fait pas sa sieste sur son banc, au milieu de ses légumes.
Et manifestement, et heureusement pour lui, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. C'est préférable, non?
Ah oui, bien sûr, mais alors, il est où le Gilbert? Ah, quand il va voir son potager labouré de cette façon, par un 12 tonnes, ah, il va sûrement faire la tête, hein. Tous ces haricots sont en bouillie.
Effectivement. Ce serait judicieux de sa part de réapparaître. Faut que je rédige mon rapport, moi, et on va pas l'attendre indéfiniment. Bon. Brigadier, et comment se porte le chauffeur?
Bien, chef. Il a eu la trouille de sa vie. Il dit juste qu'il a mal à la gorge parce qu'il a avalé une médaille. Oh, j'ai pas tout compris.
Bon, eh bien. Alors, il n'y a plus qu'à attendre que le fameux Gilbert montre le bout de son nez. Mon garde-champêtre, dites-moi, vous aimez jouer au 421?
M-E-R-C-I-M-O-N-P-O-T-E. Merci, mon pote. À genoux, sur la dalle de marbre, Gilbert a pris sa plus belle écriture pour rédiger le dernier message. Il roule la petite feuille de papier et la glisse dans la boîte de bergamote qu'il referme soigneusement. Il introduit ensuite l'étui métallique dans la boîte de banania qu'il a sortie de sa besace et remet le couvercle. Tout au fond du trou, qu'il a préalablement creusé au pied de la tombe, il la dépose et rebouche le tout avec ses mains. Puis il se relève, fait un dernier signe d'adieu en direction de la photo ovale incrustée dans le marbre et prend la direction de sa maison. Tout en songeant tristement à ses pauvres haricots qu'il avait prévu de récolter le lendemain.
On doit chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'en un poème, je vais chanter les haricots. Alors que tout repose encore, dès le premier cocorico, ah qu'il est doux quand vient l'aurore, de voir semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre et se dressant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots. Au printemps, la rose est éclose. En été, le coquelicot. Mais quel spectacle grandiose de voir fleurir les haricots. Plus tard, les paysans de France, s'agenouillant, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mais ces courbettes hypocrites pressaient de la main du bourreau qui les jetant dans la marmite met à bouillir les haricots. Et lorsque vient leur dernière heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois, mon âme pleure, car c'est la fin des haricots.
C'était Bourvil qui interprétait La fin des haricots, extrait de La route fleurie, une opérette composée par Francis Lopez. Et pendant notre lecture, vous avez pu entendre la bande originale de Restez libre, composée par Jean-Jacques Boulet.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Voici maintenant la présentation d'un auteur écrite par lui-même. Jacques Nicole naquit très jeune à Xertigny, dans les Vosges. Avant même de fréquenter la petite école qui devrait prochainement porter son nom, il se signala par de nombreux poèmes, odes, virelets et acrostiches, tracés d'une main malhabile, quoique prometteuse, à même la pauvre tapisserie du séjour familial. La main, injustement sévère de ses géniteurs, ne put briser dans l'œuf ses premiers élans et ce fut alors, etc., etc., jusqu'à l'écriture de la nouvelle intitulée La Turne, qu'il proposa à la revue numéro 5 des Refusés, consacrée au thème de la jeunesse.
Jérôme savait que ce serait difficile. Mais il ne pensait pas que la recherche d'une chambre en ville pour cette nouvelle année universitaire lui prendrait autant de temps, lui causerait autant de soucis. Il arpentait les trottoirs depuis plus de 4 jours, les poches pleines d'adresses recopiées hâtivement au tableau des services, logements réservés aux étudiants. Et il se retrouvait chaque soir harassé, les pieds gonflés, le moral en berne. Et soit que l'affaire lui fût déjà ravie par un collègue plus diligent, soit que l'état de ses modestes finances ne lui permît point de payer le loyer exigé. Au soir de ce 5e jour, l'angoisse de se voir sans toit pour la rentrée toute proche commençait à l'étreindre.
Il s'accrochait à un dernier espoir, une bouée de sauvetage. Un étudiant en médecine rencontré chez son amie Carole hier soir lui avait laissé sur un informe papelard l'adresse d'un petit studio qu'il avait occupé très peu de temps et qu'il venait de quitter le jour même pour une obscure raison qu'il n'avait pas cherché d'ailleurs à se faire détailler. L'aubaine lui suffisait et il avait aussitôt empoché la clé que lui tendait le carabin, lequel lui avait assuré que le montant du loyer était des plus réduits et que les formalités de reprise du bail pourraient attendre.
Rue de l'Assomption. Ah, le quartier n'était pas très engageant. Des tristes façades d'immeubles de la fin du siècle précédent, pas encore touchées par la grâce du ravalement, se succédaient dans l'alignement rigide et froid d'une artère de plusieurs centaines de mètres.
La morosité de l'ensemble, accentuée par l'humidité du temps automnal, n'était pas même égayée par les rares échoppes vieillottes suintant l'ennui et le marasme économique.
Emporté par son élan, Jérôme dut faire deux pas en arrière pour revenir devant le numéro 72 bis. Au premier passage, il avait négligé cette étroite porte brunâtre prise en sandwich entre un atelier d'accordeur de piano et une cordonnerie qui n'avait de moderne que le second mot de son enseigne. Sortant la vieille clé de sa poche, il ouvrit la porte et libéra les miasmes de moisissure du couloir exigu et sombre. Une unique boîte à lettres de guingois sur le mur lui confirma qu'il serait le seul occupant de ces lieux. Gage de tranquillité, compensant quelque peu le premier abord sordide des lieux.
À l'extrémité de cet obscur boyau, un escalier en colimaçon conduisait à l'étage, juste devant une unique porte, dépourvue de toute serrure, qui résista à l'ouverture. Jérôme dut insister pour la dégager de son huisserie. Oh, un bon coup de rabot viendra vite à bout de ce petit problème, c'était dû certainement à l'humidité. Manœuvrant l'interrupteur de porcelaine, il éclaira d'une lumière blafarde le bizarre petit studio, conforme à la rapide mais surprenante description que lui avait faite le carabin. Il venait d'entrer dans une minuscule cuisine occupé principalement par un évier d'une propreté douteuse, dont l'irréductible robinet compte-gouttes martelait l'émail terni de son morne métronome. Deux marches donnaient accès à la pièce principale, de dimension légèrement supérieure, meublée d'une table, d'une chaise, une gazinière et un vieux réfrigérateur dont le ronflement rassurant suivait harmonieusement la cadence du robinet.
La présence de ces deux témoins contemporains du confort moderne, providentiel pour l'étudiant désargenté, rendit Jérôme très indulgent à l'égard des autres attributs misérables de la dotation mobilière. Elle lui fit accepter avec attendrissement l'inévitable lampe de bureau bouteille de Chianti, l'étagère vermoulue, et le petit miroir fixé au mur, qui ne lui renvoyait qu'une image improbable. À la suite de ce living room, la chambre comprenait un lit au couchage inspirant la méfiance et une mauvaise petite armoire au bois enduit d'un vernis poisseux. Si proche, l'un de l'autre, qui ne put ouvrir les portes du meuble. Seule cette chambre disposait d'une étroite fenêtre qui éclairait péniblement l'ensemble des trois pièces en enfilade.
Jérôme constata avec amusement que le déplacement de la fenêtre à la porte du studio pouvait se faire en ligne droite, mais exclusivement de profil, à l'égyptienne, en raison de l'exiguïté et de l'encombrement des lieux. Bah, qu'importe. Et il pouvait plus se permettre d'être difficile, au risque de se retrouver bientôt sur le pavé. Il referma donc la porte, toujours aussi récalcitrante, bien décidé à emménager le soir même.
Il eut du mal à trouver le sommeil cette première nuit. Non pas que le lit fût inconfortable, en dépit de ses dimensions modestes, ce qui du reste le chagrinait un peu dans l'espoir qu'il nourrissait de le partager bientôt avec Carole. Il se tourna et se retourna longtemps, surpris et déçu de cette insomnie qu'il mit sur le compte de la fatigue et de l'énervement de la journée passée, en quête de ce toit. Et de la nouveauté de ce logement déconcertant, dont l'obscurité se peuplait de petits craquements. Sans aucun doute, le bois des cloisons et des meubles travaillés sous l'effet conjugué de l'humidité et des vers. Il s'endormit enfin dans un dernier sentiment raisonné de réconfort.
La journée du lendemain fut consacrée à un intensif nettoyage de l'appartement qui en avait grand besoin. Le sol n'avait pas été balayé depuis une éternité, à preuve la poussière de vieux plâtre qui s'était amassée en abondance le long des cloisons. Ah, à présent, une saine odeur de désinfectant ménager faisait sensiblement oublier celle de la moisissure, hein, complètement vaincue cependant. Après quelques passages énergétiques et énergiques d'une râpe sur le champ de la porte d'entrée, celle-ci consentait enfin à s'ouvrir et à se fermer presque convenablement. Satisfait, Jérôme se promit de ne pas tarder à faire les honneurs de ses appartements à la douce Carole.
Il employa le reste de l'après-midi à se procurer les indispensables manuels universitaires, la plupart d'occasion, auprès de camarades admis dans l'année supérieure. Et le reste à prix ruineux dans les librairies proches de la faculté. Ce qui ne lui laissa que quelques piécettes pour se réchauffer devant un café au bar du Chat qui tousse, où il retrouva Albert, Bénédicte et les autres. Il fut fâché de ne pas y voir Carole, qu'il comptait bien inviter ce soir à une agréable crémaillère. Il laissa donc un petit message complété de son adresse à Bénédicte, qui le lui remettrait dès le lendemain, promis.
Ruminant sa déception, il dîna seul d'un hamburger élastique et d'une bière glacée, et la nuit tombée retrouva son couloir obscur, dont il racla le salpêtre de ses épaules et la vieille porte, toujours plus rétive que jamais. Il dut céder de son pied gauche cette fois-ci, appliqué sur la chambranle, empoigner la clenche à deux mains, s'arc-bouter pour obtenir enfin son ouverture. Ah, pestant contre cette porte qui semblait vouloir lui refuser l'accès à son appartement et le refouler, Jérôme se dit que la râpe avait été insuffisante et que seule une bonne varlope pourrait vaincre cette réticence.
Cette seconde nuit fut à l'image de la précédente, pire encore. Il la passa à maudire dans le désordre l'infidèle Carole, ce médicard de malheur qui lui avait cédé ce galta, et cette porte infernale qu'il se promit d'enlever dès le lendemain. Se tournant et se retournant sur sa couche, s'entortillant dans ses draps humides de transpiration, il évita de prêter trop d'attention au craquement qui semblait avoir redoublé d'intensité, et fit appel à tout ce qui pouvait lui rester de sang-froid et de rationalisme pour échapper à la panique. Au petit matin, il sombra enfin dans un sommeil plus proche de l'épuisement que du repos.
À son lever, il renonça à toute ablution. Il descendit en ville pour se réveiller devant un café noir, ignorant au passage la curieuse disposition de la table et du frigo qui dut contourner pour gagner la porte. Ah, cette fois-ci, cette dernière ne résista pas à un vigoureux coup de pied et céda en émettant par pur principe un dernier gémissement.
Jérôme ne fut pas très attentif au cours de cette première journée de rentrée. Il se traîna d'amphithéâtre en salle d'études en somnambule et essaya vainement de trouver quelque intérêt aux conférences, dont il ne retenait que des bribes. Parvenu à la fin de la soirée, il décida de repousser au plus tard le moment inévitable où il devrait regagner son logement. De bar en pub, il échoua au Chat qui tousse et trouva un peu de réconfort auprès de quelques camarades, dont Bénédicte, qui lui assura qu'elle avait bien fait parvenir son message à Carole. Après 5 ou 6 vins chauds, il se sentit largement d'attaque pour affronter n'importe quel esprit frappeur et regagna son antre d'un pas décidé, quoique vacillant. Prémisse à une nuit enfin réparatrice, la porte de l'appartement largement ouverte du matin ne se posa pas en obstacle.
Il s'effondra alors tout habillé sur son lit et englouti avec béatitude dans un sommeil comateux, sans lutter contre l'impression nauséeuse d'une houle qui s'emparait de toute sa personne. Il s'abandonna au néant de la nuit, sans réagir à la trépidation qui ébranlait les cloisons de son cagibi, insensible à l'inexorable progression des murs, qui eux commençaient à enserrer son lit, tel un effroyable étau.
Bénédicte, je te laisse ce petit mot car je crains de ne pas pouvoir te voir cet après-midi avant de partir en week-end. Je me suis rendue ce matin à l'adresse que t'a laissée Jérôme l'autre soir. En effet, je ne l'ai pas vu en cours depuis hier. J'avais fini par m'inquiéter de cette absence, bien que ce garçon m'agace plus qu'autre chose. Crois-moi, si tu veux, il n'existe pas de 72 bis dans la rue de l'Assomption. Le 72 est un accordeur de piano et le 74, un vieux cordonnier miteux. Rien d'autre, à l'exception d'un tas de gravats sur le trottoir. J'ai horreur qu'on se paie ma tête. Je ne veux plus entendre parler de ce Jérôme. Signé Carole.
RCN, quelles sont les nouvelles ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
C'était Kobza Luka, un extrait de la bande originale du film Gaggio di Lo de Tony Gatliff, qui accompagnait donc La Turne de Jacques Nicole. Avant de rendre l'antenne, nous souhaitons vous avertir que Sophie Loubière, une autrice que nous avions lue le mois dernier, sera à Nancy le vendredi 11 avril à 18h. Ce sera pour une rencontre au hall du livre autour de son prochain livre « Une minute de silence ». Et quant à nous, eh bien nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour notre 20e émission. Alors, au revoir tout le monde.
Au revoir.
Ha, 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 ha.